Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. La surveillance de masse est-elle en train de se répandre sur la planète à la faveur de la pandémie de coronavirus? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et spécialiste des questions liées au numérique. Son dernier livre, paru en janvier, s'intitule « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance ». Salut Olivier.
Salut Steven.
Et bienvenue dans l'Atelier des médias. Tu observes minutieusement depuis une dizaine d'années les dispositifs de surveillance à travers le monde, un travail que tu as débuté d'abord chez OVNI, un média en ligne dédié aux questions du numérique, et que tu poursuis donc chez Télérama. Avant toute chose, en 2020, qu'appelle-t-on la surveillance de masse ?
Alors c'est vrai que dans la représentation populaire qu'on a de la surveillance, quand on dit surveillance de masse, on visualise tout de suite des grands programmes d'espionnage menés par des agences à trois lettres, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. On voit des filatures avec des types avec des imperméables en mastic et des petits trous dans les journaux pour regarder à travers, où on pense à la Stasi, où on pense à ce genre de choses. Et en fait, on a beaucoup moins perçu que l'évolution au fil des ans de la surveillance, ce qu'on appelle une surveillance de masse, s'est fait beaucoup plus à bas bruit, en fait, avec la généralisation de tout un tas de dispositifs qui captent nos données, nos informations, des informations sur nos modes de vie, de manière assez routinière, et qui nous accompagnent un peu comme ça dans notre quotidien. Et donc, en fait, cette surveillance de masse, qui n'est pas celle qu'exercerait un régime totalitaire, mais qui est celle qu'on peut vivre dans une démocratie libérale comme la nôtre, eh ben, c'est cette collecte routinière, cette espèce de tuteur comme ça numérique qui accompagne un peu nos vies et puis qui oriente quand même la façon dont on mène notre existence.
As-tu des éléments qui nous permettent d'affirmer qu'il y a actuellement dans le monde, avec cette pandémie de coronavirus, une accélération de la surveillance de masse de façon globale ?
Alors, c'est vrai que c'est assez frappant parce que déjà avant la pandémie, on voyait qu'il y avait quand même une forme d'accélération dans le déploiement d'un certain type de technologie. Il faut voir par exemple les débats assez intenses qu'on a pu avoir autour de la reconnaissance faciale depuis quelques mois, qui est en train quand même de se développer un peu partout, et y compris en France. Il faut voir qu'en fait, ces dernières années, notamment au nom d'un impératif sécuritaire, de lutte antiterroriste, c'est cette idée toujours selon laquelle la sécurité est la première des libertés, qu'on entend d'ailleurs aussi bien à droite qu'à gauche, et donc puisque la sécurité serait la condition préalable à l'exercice de toutes les autres libertés, il faudrait absolument déployer tout un tas d'outils qui permettraient de mettre les citoyens le plus en sécurité possible dans une quête évidemment jamais rassasiée de cette sécurité. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, avec la pandémie, c'est la santé qui est devenue la première des libertés et que finalement, c'est un levier encore plus puissant ou beaucoup plus puissant que le risque terroriste, par exemple. Et donc, à la faveur de cette pandémie ou en raison de cette pandémie, on a effectivement une accélération assez impressionnante, assez vertigineuse du développement de ces outils qui finalement, là, en ce moment, sont en train d'être banalisés. Alors, en train d'être banalisé dans une période qui est une période exceptionnelle. On est sous état d'urgence sanitaire, on nous dit que les outils ne seront déployés que pendant le temps de la pandémie, mais on a vu que justement avec les dispositifs sécuritaires, ça fonctionnait exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on avait déjà voté un état d'urgence en 2015 par exemple, il a été prorogé 6 fois, puis il a fini par basculer dans le droit commun. Aujourd'hui, on peut avoir une vraie crainte que finalement ces outils déployés en temps de pandémie, à titre expérimental, à titre dérogatoire, à titre exceptionnel, une fois qu'on a développé une accoutumance, qu'on ait beaucoup de mal finalement à les défaire.
Alors on va revenir là-dessus, mais face au coronavirus, dans plusieurs pays sont déployés des systèmes de traçage au sein de la population. On va parler tout à l'heure de la France, mais commençons par Singapour, qui est le premier pays au monde durant cette pandémie à avoir mis en place un tel système, avec une application Trace Together, qui était initialement sur le principe du volontariat anonyme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce type d'application ?
Alors ce type d'application, et c'est vrai que le modèle de Singapour est intéressant parce que c'est un peu celui qui a inspiré un certain nombre de pays et particulièrement la France, c'est qu'on va utiliser la technologie Bluetooth à l'intérieur du téléphone pour regarder si deux téléphones, en l'occurrence, plutôt que deux identités, ont été en contact pendant, par exemple, plus de 15 minutes ou plus de 30 minutes à moins d'un mètre de distance. Donc l'idée, c'est pas de géolocaliser des individus, c'est pas de suivre des individus, c'est de tracer des interactions sociales. Et donc à ce moment-là, le téléphone va enregistrer un identifiant anonyme qui change en permanence. Et si une personne commence à développer des symptômes, a été exposée au virus, à ce moment-là, on peut prévenir les autres personnes avec qui elle a été en contact au cours de sa journée ou au cours des journées précédente. Après, moi, le problème que j'ai effectivement avec ce type d'application, ou la question que ça pose, c'est qu'on nous dit que c'est effectivement volontaire et anonyme. Alors déjà sur l'anonymat, en fait, l'anonymat tient jusqu'à l'émission de la notification, c'est-à-dire que ces applications vous disent « oui, vous avez probablement été exposé au virus » ou « non, vous n'y avez pas été exposé, auquel cas vous ne recevez pas de notification ». Mais à partir de cette notification, c'est les pouvoirs publics qui prennent le relais. Et là, c'est une politique sanitaire que vous mettez en œuvre. C'est-à-dire que si vous voulez décider, par exemple, qu'une personne à qui vous avez intimé l'ordre, entre guillemets, de rester chez elle parce qu'elle risque d'avoir été exposée au virus, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place un certain nombre d'outils beaucoup plus coercitifs pour s'assurer qu'elle respecte bien les mesures de quarantaine ou de confinement qu'on lui a indiquées. Donc l'anonymat tient jusqu'à ce que les personnes soient en fait testées positives ou soupçonnées d'être malades. Et d'ailleurs, les médecins le disent, hein, ils soignent des patients, ils soignent pas des identifiants. On a besoin de connaître l'identité des personnes qu'on soigne. Et ensuite, il y a la question du volontariat, et Singapour a été un assez bon exemple de ça, c'est que depuis le début, on sait que pour qu'éventuellement ces applications soient efficaces, si tant est qu'elles soient réellement efficaces, parce qu'on a quand même assez peu de preuves, en tout cas on a peu d'études sur la réelle utilité de ces applications-là, il faudrait qu'elles soient quand même massivement adoptées par la population. C'est-à-dire qu'une étude d'Oxford, qui est d'ailleurs la seule étude sur le sujet, montre que pour arriver à un taux de reproduction du virus qui soit sous 1, c'est-à-dire qu'on éteigne mécaniquement la pandémie, à ce moment-là, il faut que 60% de la population, à peu près, installe l'application. Dans un pays comme Singapour, qui est quand même un tout petit territoire, une cité-état de 720 km², on a à peu près 16%, 17% de la population qui a installé l'application, ce qui est largement insuffisant. Donc il y a eu de nouveaux cas qui se sont déclarés, ils n'ont pas réussi à en déterminer l'origine et ils ont été obligés de mettre en place des mesures plus strictes de confinement. Alors il y a eu des circuit breakers là-bas, mais qui ont montré finalement les limites d'une application comme celle-ci sur un territoire qui a priori est beaucoup plus sensibilisé que nous à ce type de technologie, d'autant plus que Singapour est depuis assez longtemps une espèce de showroom de cette ville du futur avec des capteurs partout, pilotés un peu par ordinateur. Et donc à la suite de ça, les autorités singapouriennes, après avoir durci les mesures de confinement, ont lancé un nouveau dispositif, un nouveau système qui oblige les habitants à scanner un QR code quand ils entrent dans un bâtiment public. Et à ce moment-là, quand vous scannez le QR code, là, tout est capté. C'est-à-dire qu'on a votre numéro de téléphone, on a votre identité. Et donc, on n'est plus du tout sur un système qui est volontaire ou anonyme.
Là, on est dans un système qui est beaucoup plus liberticide. Alors, prenons encore un petit peu plus de hauteur. Mercredi, Google et Apple ont annoncé dans un communiqué commun avoir mis à disposition des autorités de santé dans le monde une solution pour construire une application de traçage de contacts sur Android et sur iOS. Donc, pas une application, mais une API qui permet à chaque utilisateur de prévenir facilement ses contacts s'il se croit malade ou s'il est effectivement diagnostiqué malade du Covid-19. En Europe, la plupart des pays entendent s'appuyer sur cette solution proposée par Google et Apple, mais il y a des pays qui veulent faire cavalier seul, utiliser leur propre truc. C'est le cas du Royaume-Uni et de la France, qui veulent donc maîtriser leur solution de traçage. En France, c'est l'application Stop Covid sur laquelle on travaille. Est-ce que tu peux essayer de nous comparer justement l'approche à la fois Google, Facebook et puis l'approche française de l'autre côté?
Alors, c'est vrai que dans cette histoire, aujourd'hui, on a beaucoup de querelles, alors qui sont des querelles d'experts, de cryptographes, etc., entre, on va dire, deux modèles, deux protocoles, où on aurait un protocole décentralisé d'un côté, qui est plutôt à la fois un protocole qui s'appelle DP3T, qui est porté par un certain nombre de pays et de chercheurs au niveau européen, mais qui est aussi le protocole qui a plutôt les faveurs de Google et d'Apple. Le protocole décentralisé, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir une autorité centrale qui va regrouper les informations captées par l'application et permettre éventuellement la réidentification des individus exposés au virus, mais les informations vont être stockées sur les téléphones. Et ensuite, vous avez un autre modèle, qui est un modèle donc plus centralisé, qui est le modèle qui est retenu par la France, qui est aussi, a priori, le modèle retenu par le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni commence, lui aussi, un peu à changer de position dans la mesure où ils ont aussi lancé un deuxième chantier où ils discutent avec Apple et avec Google, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment quasiment les seuls en Europe à faire un peu cavalier seul. Et dans ce système centralisé, là, les informations ne sont pas stockées sur les téléphones. C'est-à-dire que tout ce que vous recevez sur les téléphones, c'est pas le graphe social de toutes les interactions que vous avez pu avoir. C'est juste un code couleur vert ou rouge qui va vous dire vous avez été exposé ou pas au virus. Et donc, à ce moment-là, les informations sont transmises à cette fameuse autorité centrale dont il reste à déterminer d'ailleurs l'identité. Et donc, de chaque côté, en fait, il y a des partisans partisans et des opposants au modèle décentralisé, au modèle centralisé. On va dire que pour résumer, les opposants au modèle centralisé craignent qu'une autorité centrale ait accès à trop d'informations et que ce soit lui octroyé trop de pouvoir. Et les opposants à un modèle décentralisé craignent qu'on transforme les utilisateurs en auxiliaires de police dans la mesure où, puisqu'on reçoit finalement le graphe social de l'environnement dans lequel on vit, on puisse assister à un certain nombre de choses comme on a pu le voir dans d'autres pays, notamment ça s'est un peu fait en Corée du Sud, et où il peut d'ailleurs y avoir aussi une prolifération d'applications parasites qui permettent de faire ça, c'est-à-dire on me dit que j'ai été exposé tel jour à telle heure et à tel endroit, à partir de là je sais que moi j'étais à cet endroit-là, ce jour-ci, donc c'est forcément telle personne qui m'a identifié, donc chacun se transforme un peu en détective, entre guillemets, pour essayer de retrouver qui l'a infecté, avec les effets, évidemment, de stigmatisation que ça peut engendrer. Et donc, le vrai enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir qui a accès aux informations qui sont émises, on va dire, dans le cadre de cette application. Parce qu'on sait quand même déjà que les données à caractère médical, l'anonymat dans ce type de conditions est une chimère, qu'il y a toujours possibilité de réidentification, que par ailleurs, dans la crise sanitaire qu'on traverse, il vaut mieux qu'il y ait possibilité de réidentification, sinon ça sert objectivement pas à grand-chose, parce qu'il faut pouvoir soigner les gens. Et donc, il y a un débat autour d'Apple et de Google qui explique probablement pourquoi en France, on fait vraiment de la résistance par rapport à ça. Alors, il y a une petite composante, on va dire, liée à des questions de souveraineté numérique qui font que on veut pas s'allier à des grandes plateformes américaines à qui on sous-traiterait d'une certaine façon notre politique de santé, même s'il ne s'agit encore une fois que d'une API et pas d'une application clé en main. Mais je crois qu'il y a aussi une appréhension de la part des autorités, donc en l'occurrence des autorités françaises, à laisser Apple et Google, dont on sait en plus qu'ils ont quand même des vues sur le secteur de la santé, à les laisser finalement pouvoir accéder à un certain nombre d'informations, pouvoir être ceux qui vont en fait calculer le risque sanitaire dans tel ou tel pays, parce que une application, en fait, si on la ramène à sa fonction initiale, c'est quand même ça, c'est-à-dire avoir une capacité de calcul informatique pour déterminer si une personne a été ou non exposée au virus. Et donc, ce calcul, il faut le faire à la base, sur la base d'un certain nombre de critères, et je pense que les autorités françaises ne sont pas extrêmement à l'aise à l'idée de laisser Apple ou Google déterminer les critères qui feraient justement qu'une personne est possiblement dangereuse, entre guillemets, dans l'espace public.
Donc en fait, on préfère risquer d'avoir une application qui ne sera peut-être pas totalement fonctionnelle parce qu'elle sera sur des systèmes que l'on ne maîtrise pas, comme iOS ou Android. Pourquoi s'acharner justement avec une application franco-française ?
On peut déjà se poser la question de l'acharnement avec une application franco-française, on peut aussi se poser la question de l'acharnement avec une application tout court, hein, parce que je vois par exemple qu'aux États-Unis, alors que justement la solution d'Apple et Google est sur le point de, enfin elle est vraiment en phase de finalisation, et je vois passer tout un tas d'études de chercheurs ou d'articles de presse qui expliquent que quand même le défi à relever, il est immense. Et les soucis dont on parle tout à l'heure d'enrôlement, notamment dans l'application, on les retrouve dans quasiment tous les pays. Aujourd'hui, aucun pays n'a, grâce à une application, réussi à endiguer l'épidémie. Bon, d'ailleurs, tous les pays se défendent de vouloir endiguer l'épidémie grâce à la technologie. On se défend de faire du solutionnisme technologique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression que Stop Covid est devenu un objet de communication et un moyen pour, en l'occurrence, un ministre d'exister politiquement. On n'a pas un consensus extrêmement large, que ce soit au sein de la majorité ou même au sein du gouvernement, sur cette application-là. Et je remarque que nos voisins belges, par exemple, il y a quelques semaines, ont dit, bon bah finalement, une application de suivi de contact, on n'est pas complètement certain que ça marche. À côté de ça, on a des enquêtes épidémiologiques de terrain avec les fameuses brigades dont on a parlé chez nous, qui pour le coup ont fait leur preuve depuis assez longtemps, qu'il vaut mieux s'appuyer là-dessus. Donc c'est vrai qu'on est dans cette espèce de serpent de mer. Stop Covid est devenu comme ça un serpent de mer jusqu'au vote. Alors on verra bien comment ça va se passer le débat parlementaire la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ressemble à une aventure qui est quand même une aventure de plus en plus hasardeuse et qui ressemble plus qu'autre chose, en fait, à une espèce de démonstration d'un savoir-faire français où on met, regardez, on a l'INRIA d'un côté, qui est un peu un fleuron de la recherche, et puis à côté, on va mettre tout un tas d'entreprises grandes et petites, d'Orange à Capgemini, en passant par Dassault, qui vont chacune apporter une brique logicielle pour construire cette application qui sera une application 100% made in France. Sauf que ça, c'est pas de la santé publique, c'est de la communication politique.
Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et spécialiste des questions liées au numérique. Ouvrons maintenant une séquence questions courtes, réponses courtes. Installeras-tu l'application Stop Covid sur ton téléphone ?
Oui, mais parce que c'est mon travail.
Est-ce que le confinement a changé quelque chose à ta façon d'enquêter, toi qui travailles surtout sur les questions liées au numérique ?
Alors, ça n'a pas changé ma façon d'enquêter, ça m'a plutôt donné davantage de travail. Par contre, c'est des sujets qui m'angoissent plus qu'avant.
La distanciation physique peut-elle changer en bien notre façon d'utiliser le numérique ?
J'ai plutôt peur de l'inverse. J'ai plutôt peur que se mette en place une économie de la distanciation sociale qui soit en fait une réorientation de technologies sécuritaires.
Et plus globalement, la situation actuelle est-elle propice à une réflexion sur nos usages du numérique ?
Alors ça, oui, et j'ai envie de penser que même dans ce contexte-là, ou paradoxalement dans ce contexte-là, c'est peut-être le bon moment pour justement un peu mieux penser, et un peu mieux penser collectivement la technologie et les risques qu'elle peut présenter.
Dernière question sur laquelle on pourrait passer 3 heures, mais j'aimerais une réponse courte là-dessus. La surveillance de masse est-elle incompatible avec l'état de droit ?
Je me souviens de cette phrase de Peter Thiel, qui est quand même un peu l'archétype du capitaliste de surveillance, qui est le patron de cette entreprise qui s'appelle Palantir et qui est l'un des membres du conseil d'administration de Facebook, qui est le grand argentier conservateur de la Silicon Valley, et qui, il y a quelques années, écrivait que l'État, la forme de l'État, lui, qui est très libertarien, était incompatible avec les libertés. Or, le monde qu'il nous propose à la place me semble encore plus incompatible avec l'État de droit. Donc, j'aurais tendance à répondre que non, la surveillance de masse n'est effectivement pas très compatible avec l'État de droit.
RFI.
Justement, parlons du recul critique derrière tout ça. Nos dirigeants sont-ils suffisamment bien renseignés pour statuer sur un truc si complexe ?
Alors, c'est vrai que la période pourrait être assez propice à une forme de montée en régime chez nos politiques sur ces sujets-là qu'ils ont toujours eu quand même du mal à appréhender. Après, j'ai du mal à imaginer que les débats autour de Stop Covid la semaine prochaine tournent autour des vertus de tel ou tel protocole. Bon, et d'ailleurs, c'est peut-être mieux parce que la question doit quand même être délibérée le plus largement possible. Et donc, il faut que tout un chacun puisse quand même se saisir des débats en cours. Ce que je crains un peu, c'est qu'on voit bien que justement, depuis quelques années, au nom de cet impératif sécuritaire, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, on a quand même une espèce de fuite en avant technologique où les outils deviennent finalement un moyen de gouverner, viennent se substituer en fait à une politique publique. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'avoir une politique de la ville, on va se dire on va juste mettre des caméras intelligentes dans l'espace public. J'ai un peu peur que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, avec l'urgence que ça impose en plus, et avec l'irrationalité que ça peut charrier, parce qu'évidemment, dès qu'on s'oppose à ce type de dispositif, on vous explique que vous êtes un ennemi de la nation et que vous voulez qu'il y ait des morts. J'ai quand même entendu un parlementaire français expliquer que refuser d'installer Stop Covid, c'était un crime contre l'humanité. Donc on a quand même un peu perdu toute mesure. Ce serait bien que au niveau de nos dirigeants politiques et dans une articulation avec la société civile, on puisse débattre un peu sereinement de ces questions-là, mais en envisageant toutes les possibilités. Parce que, encore une fois, on se défend de faire du solutionnisme technologique en nous expliquant, par exemple, que Stop Covid, dans le meilleur des cas, ça va marquer au moins une vie, et puis dans le pire des cas, ça ne marchera pas. On oublie complètement le scénario dans lequel, ou bien ça marche, mais ça provoque des conséquences très fâcheuse sur le corps social, et l'hypothèse dans laquelle l'outil non seulement ne marche pas, mais en plus abîme ce même tissu social. Donc on mesure pas assez, je trouve, les effets sociaux, notamment de la technologie, et ce serait pourtant vraiment le moment où le faire. Parce que si on le fait pas maintenant, en fait, on le fera vraiment jamais.
On parle de politique, là, et j'ai l'impression que dans ce débat, on parle très peu, pour ne pas dire qu'on n'en parle pas du tout, du coût de la surveillance. Alors, on se souvient que Snowden avait montré que le gros outil de la NSA aux États-Unis coûtait 20 millions de dollars. Avec 20 millions de dollars, on savait tout sur tout et sur tout le monde. En gros, est-ce que c'est aussi pour ça que les politiques décident de miser sur la technologie et sur une appli plutôt que de faire du traçage par des personnes physiques ? Alors, je sais qu'on est en 2020, on n'est plus à l'époque de la où il y avait des micros quasi analogiques et peut-être une personne derrière chaque personne à suivre, etc. Beaucoup de gens derrière, ça c'était très 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 coûteux. Mais est-ce que justement ce pari de choisir une application, c'est pour faire des économies d'une certaine façon ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a une dimension budgétaire qui n'est pas complètement à éliminer, parce que je pense à un exemple en particulier qui était, pour le coup, qui a émergé avant la crise sanitaire, qui est cette entreprise américaine qui s'appelle Clearview, qui fait de la reconnaissance faciale, qui a été développée, alors bon, quand je dis avec quelques bouts de ficelle, c'est-à-dire avec une injection de quelques millions de dollars, dont certains d'ailleurs de Peter Thiel, ce fameux argentier conservateur de la Silicon Valley. Et dans un anonymat finalement assez total, Clearview a mis au point une base de données de 3 milliards de visages en aspirant ces informations sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc a réussi à monter une base de visages à des fins de reconnaissance faciale qui est 7 fois et demi plus importante que celle du FBI, base de données qui est ensuite monnayée et bradée parfois auprès d'un certain nombre de forces de police américaines qui ont commencé à s'en servir. Qu'un acteur comme celui-là, avec une base de données aussi grande que celui-là, puisse émerger de manière aussi soudaine et avec aussi peu de moyens, finalement, ça montre bien que cette surveillance, effectivement, ça peut être une manière un peu « discount », entre guillemets, de faire de la politique, encore une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que dans un certain nombre de municipalités, par exemple, on va estimer que acheter ou se faire offrir, parce que c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'avec ces dispositifs de surveillance, et notamment pour tout ce qui est des dernières technologies disponibles, un certain nombre de ces sociétés qui ont envie de se faire connaître et qui transforment les villes en showrooms sécuritaires, vont approcher des municipalités ou des collectivités en contournant la commande publique, en leur disant « voilà, on vous offre la technologie pour la tester, en échange de quoi vous nous offrez de la visibilité ». Et donc évidemment, pour des municipalités, pour des collectivités, c'est extrêmement séduisant parce que ça coûte évidemment beaucoup moins cher que de mettre en œuvre une véritable politique de la ville en embauchant des gens, en les rémunérant. C'est effectivement beaucoup moins coûteux d'installer un logiciel, par exemple, et puis de poster quelqu'un éventuellement derrière qui va voir une myriade d'écrans. Donc je pense qu'effectivement, ce paramètre financier couplé à l'idée selon laquelle tous ces outils vont permettre de fluidifier la manière dont on gouverne sont effectivement assez séduisants pour les gouvernements. Et il faut être particulièrement vigilant en ce moment parce qu'on voit un certain nombre de ces sociétés qui voient l'opportunité financière qu'offre la crise sanitaire actuelle et qui, au nom justement de cette crise sanitaire, vont proposer leurs services à prix cassé, voire vont commencer par l'offrir et puis ensuite le factureront peut-être. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu la foire à la saucisse, entre guillemets, pour qui vendra la solution la mieux adaptée, la moins onéreuse pour combattre le virus.
Parlons du cas de la Corée du Sud, qui est présentée en exemple au niveau international, avec une stratégie qui est en 3 volets. D'abord, tester massivement la population. Ensuite, tracer, c'est-à-dire identifier à la fois les malades et puis leur chaîne de contact via Bluetooth, GPS, carte bancaire également. Et puis après, isoler donc ces malades et ceux qu'ils ont rencontrés. Et pourtant, eh bien, bon, ce sont des méthodes qui peuvent paraître autoritaires, c'est-à-dire par exemple tracer les cartes bancaires d'un endroit donné, dans un quartier. On voit que ça a été fait il y a quelques semaines, par exemple. Et pourtant, cela passe, entre guillemets, auprès de la population sud-coréenne. Est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça ? C'est que c'est fait en bonne intelligence ou alors qu'il y a un système derrière qui fait que la population, de toute façon, l'accepte et que c'est bien géré, entre guillemets ?
Alors, je pense que la grosse différence quand même avec la Corée, c'est qu'en Corée du Sud, où ils ont déjà eu à vivre des épisodes sensiblement identiques, où ils ont eu notamment une épidémie de coronavirus en 2015, en fait, à ce moment-là, ils ont mis en place un protocole qui prévoyait de déployer immédiatement du suivi de contact, donc avec des gens qui viennent vous ausculter, avertissent vos contacts. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu de manière très rapide en Corée du Sud, par exemple, qu'ils étaient capables de cartographier presque les déplacements de tel ou tel patient. Il y a notamment ce cas très médiatique de la patiente 31 qui s'est rendue à un office religieux, qui est ensuite allée manger à un buffet d'hôtel et dont on sait quasiment très exactement qu'elle a infecté, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est 1140 personnes, quelque chose comme ça, 1140 personnes qui ont été en contact avec elle. Mais le fait que finalement ce protocole soit en place, que donc le chemin soit tracé, entre guillemets, rend à mon sens l'acceptation peut-être beaucoup plus simple par la population, parce qu'on entend souvent cette remarque par ailleurs très ethnocentrée qui consiste à dire « ah oui, mais bon, les Asiatiques sont de toute façon beaucoup plus obéissants que nous, Latins, qui sommes d'éternels indisciplinés ». Non, la vérité, c'est que comme il y a un protocole en place en Corée du Sud, la marche à suivre était déjà écrite. Nous, quand on commence à parler de suivi de contact, d'application en tout genre, c'est un prérequis ou c'est un marchandage contre le déconfinement. C'est-à-dire qu'on a voté une mesure qui est une mesure extrêmement privative de liberté, le confinement, et la condition pour remettre les corps en circulation dans l'espace public, ce serait de déployer un certain nombre de mesures beaucoup plus individualisées de traçage. Mais à partir du moment où on met en place ce marchandage, cette espèce de troc, les dés sont un peu pipés, parce qu'on vous dit, est-ce que vous préférez finalement l'immobilisation dans le temps et dans l'espace, ou est-ce que vous préférez pouvoir circuler à nouveau avec la possibilité qu'effectivement on vous suive un peu à la trace et la possibilité que vous soyez obligé de retourner éventuellement chez vous dans l'hypothèse où vous seriez exposé au virus. Donc il y a évidemment ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte, parce qu'en Corée du Sud, il n'y a jamais eu de confinement en fait.
Et aussi visiblement, l'autorité en charge des enquêtes en Corée du Sud a été créée pour l'occasion et elle est indépendante du gouvernement. Donc ça ne dépend pas du ministère de la Santé ou d'une de ses agences.
Voilà, par ailleurs, c'est effectivement fait de manière très indépendante. Alors ça ne veut pas dire que c'est sans aucun risque ou que ça ne pose aucune question. Hein. On a vu que notamment en Corée du Sud, il y avait des phénomènes de stigmatisation parce que parfois, l'identité de ces personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les différents protocoles d'application, à partir du moment où vous pouvez reconstituer le graphe social des personnes, vous pouvez retrouver leur identité. Et donc parfois des personnes ont été nommées ou des lieux ont été nommés et tout à coup ces lieux deviennent infréquentables, ces personnes deviennent pestiférées entre guillemets, on va sur les réseaux sociaux pour essayer de les identifier ou pour prévenir les gens qu'il ne faut surtout pas les approcher ou juste pour dire du mal d'elles publiquement. Donc ça c'est évidemment des risques qui existent, mais encore une fois quand on se compare au modèle coréen, il ne faut pas oublier que la stratégie initiale de lutte contre le virus est finalement pas du tout la même.
En France, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et le Conseil national du numérique sont-ils, à ton avis, à la hauteur des enjeux actuels ? On sait que la CNIL doit rendre son avis lundi à propos de l'application Stop Covid, par exemple.
Alors, on se rend compte qu'en ce moment, la CNIL, même si on glose souvent sur ses faibles moyens et la faible influence qu'elle a, elle a quand même toujours un pouvoir de contrôle et de sanctions. Elle l'a prouvé d'ailleurs ces derniers mois, il y a un certain nombre de dispositifs, je pense à la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées à Nice et à Marseille, je pense à des capteurs sonores dans des quartiers populaires à Saint-Etienne, sur lesquels elle a dit que c'était illégal, et donc ils n'ont pas été déployés. Donc elle est toujours capable d'assumer ce rôle-là. On a besoin évidemment de la CNIL en ce moment, parce que de toute façon c'est la seule autorité indépendante qu'on a sur ces questions-là. Après on pourrait débattre très longtemps pour savoir est-ce que c'est une autorité réellement indépendante et est-ce qu'elle a suffisamment de pouvoir ? Probablement pas. Je suis beaucoup plus dubitatif sur le Conseil national du numérique, qui a quand même toujours été un organe très consultatif, donc son avis n'est que très rarement écouté, plus là pour produire des idées dont le gouvernement peut éventuellement se saisir. Après, on voit aussi, et c'est quand même à noter, que aussi bien le Conseil d'État que le Conseil constitutionnel peuvent aussi se mêler de ce genre de choses. Je pense au Conseil constitutionnel qui a quand même décidé d'encadrer un peu plus strictement, qui a émis des réserves sur les deux fichiers qui ont été créés pour suivre justement les personnes infectées, donc à la fois le CIDEP, le fichier des personnes testées, et contact Covid, le fichier des cas contacts, comme on dit. Et de l'autre main, on a le Conseil d'État qui, cette semaine, a interdit l'utilisation de drones par la police pour contrôler le déconfinement, estimant que le cadre légal était trop flou et que les risques étaient trop grands quant au respect, justement, de la vie privée des personnes et que donc il faudrait probablement repasser par la loi si la police voulait utiliser un dispositif comme celui-là. Donc on voit bien que même au niveau de nos juridictions suprêmes, entre guillemets, il y a aussi un rôle de contre-pouvoir à assumer et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un cadre qui est un cadre expérimental et où on teste tout un tas de solutions de manière un peu inconsidérée parfois.
Dernière question, on l'aura compris, le débat peut être très technique. Avec ton regard de spécialiste des sujets numériques, trouves-tu que les médias français se sont bien emparés des questions de vie privée autour des dispositifs numériques employés contre l'épidémie ?
Alors, je remarque qu'effectivement, on ne s'est jamais aussi intéressé, mais quand je dis « on », c'est à la fois les médias, c'est l'opinion publique, c'est un certain nombre d'associations qui font ce travail-là depuis assez longtemps et qui ont un peu l'impression que parfois ça peut porter ses fruits. On s'intéresse énormément à ces questions-là. Après, je pense que la raison pour laquelle on s'intéresse davantage à ces questions-là, c'est que jusqu'à présent, quand on parlait des questions de surveillance, on avait toujours l'impression que ça frappait chez le voisin. D'ailleurs, on avait coutume de dire « j'ai rien à cacher » parce que de toute façon, finalement, tout ça n'arrive qu'aux autres. On parlait de contexte de surveillance dans des contextes qui étaient des contextes de lutte antiterroriste. Et donc, effectivement, on se disait « mais moi, je suis irréprochable. De toute façon, allez-y, vous pouvez fouiller, vous ne trouverez rien contre moi. Je suis un peu blanc comme neige. » Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut tous tomber malade, qu'on peut tous être soumis à des mesures restrictives de liberté. Et tout à coup, la surveillance, elle semble beaucoup plus familière, finalement. On voit bien que si aujourd'hui, les normes autour de la vie privée ou du secret médical évoluent, on va tous être affectés par ces évolutions. Donc effectivement, je sens quand même une petite montée en régime autour de ces questions-là. La question, ce sera de voir comment ça va être pérennisé à la fin de l'épidémie, parce qu'à un moment, on va quand même finir par en voir le bout, même si ça va nous accompagner un certain temps. Est-ce que ces sujets repartiront comme ça dans une forme d'anonymat, ou est-ce qu'au contraire, on aura estimé qu'on a un devoir aussi, et nous, en tant que médias, d'être technocritique, on a besoin, en fait ça peut sembler contre-intuitif, mais je pense que les médias ont besoin d'être un peu modérément paranoïaques sur ces questions-là, on a besoin d'envisager un peu tous les scénarios, parce que sinon on risque de mal évaluer, on va dire, les risques qui sont liés à tous ces dispositifs de surveillance. Moi je pense souvent à cette phrase de Günther Anders, le philosophe allemand qui était le mari d'Anna Arendt, et qui disait « ou l'exagération, ou le renoncement à la connaissance ». Et je pense qu'effectivement, en matière de surveillance, il ne faut pas hésiter à être dans l'exagération, alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut tordre les faits, évidemment, mais parfois ça nécessite d'envisager, à minima, un certain nombre de cas de figure ou de situations qui pourraient être perçues comme maximalistes, mais qui permettent d'évaluer justement les dangers qui sont liés à tous ces dispositifs de surveillance et qui sont des dangers par ailleurs bien réels.
Olivier Tesquet, je rappelle le titre de ton dernier livre, « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance » paru en janvier aux éditions Premier Parallèle. Merci Olivier, à bientôt.
Merci Steven, au revoir.
C'est ainsi que s'achève cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je vous invite à réécouter nos derniers podcasts avec le spécialiste de l'histoire du journalisme Alexis Lévrier. Nous avons discuté du climat de défiance qui règne actuellement en France entre le pouvoir et les journalistes. L'économiste Julia Cagé nous a présenté des modèles économiques et des modes de gouvernance pour assurer la survie des médias dans le monde d'après. Après, je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.